sont évidemment pas à prendre au sens de scission ou de création qui se suivent les uns les autres, pour une raison très simple, que dans le premier jour, il y a marqué Vayere, Vayevoker, Yom, et ensuite il y a marqué quoi, Vayere, Vayevoker, Yom, on aurait dû dire Shtaim. Si Echad, c'est Shtaim, Shalosh, Arba. Si tu dis Shéli, il fallait dire Rishon. Et là, il expliquait le Rav Ashkenazi, il disait, en fait, Yom Hashéni, c'est Hashéni, Shéou Echad. Yom Hashéni, Vayere, Vayevoker, Yom Hashéni. C'est quoi Sheni? C'est le deuxième Yom Echad. Et le troisième, c'est le troisième Yom Echad. Et bien ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque journée, c'est le monde entier, en fait. Vu d'un autre aspect. Donc en fait, c'est pas qu'ils se suivent les uns les autres et que c'est des metsimuyot. C'est des états d'être. En hébreu, on dit Yom. Yom vient du verbe liot. Donc c'est état d'être. Un état. Ok? État 1 et 2. Et donc, à ce moment-là, ben, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas du tout la vie du Rav Mizrovitch, c'est la vie du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est la vie du Malbim et d'autres grands rabbinim avant le Rabbi encore, et c'est la vie de plein de rabbinim encore aujourd'hui. Donc, effectivement, connaissant tes antécédents, je sais que c'est difficile à encaisser, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Non, pourquoi ça ne me dérange pas plus? Parce qu'en fait, c'est lo kol kach chashuv. C'est là qu'on le cas le Rav Kook, il explique dans un texte qui vient du livre Nin Nevuché Ador au chapitre 4, où il dit qu'il y a des gens qui pensent qu'à l'époque du Rav Kook, il y a 100 ans, la théorie de l'évolution est déjà bien en place, on commence déjà à parler de Big Bang, etc. Donc il dit, il y a des gens qui pensent que la théorie de l'évolution qui voit le monde comme étant une évolution qui a des milliards d'années, il y a des gens qui pensent que ça va enlever la foi dans Dieu. Il dit, ces gens sont des gens de peu de foi et des gens de peu de connaissances dans Dieu. Parce qu'au contraire, de dire que le monde il y a des milliards d'années, qu'il y a eu le Big Bang et tout ça machin, et que de dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils te disent les scientifiques? Si tu regardes bien, leur théorie, c'est de dire quoi? Viens, on traduit la théorie scientifique du Big Bang en une phrase et en français, pas en scientifique. Ils disent, bah, y a un monde avec plein de choses, mais à l'origine, il y avait un truc. Bah ouais, c'est ce que les Mekoubalim disent depuis toujours. C'est qu'il y avait Echad, chez Hachem Echad, et qui a créé un ribouille. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ait décidé de créer ça par un boom? Bah Dieu, il n'est pas capable de faire le Big Bang. Il est capable. Tiens. Donc voilà, ça va comment on gère le truc. Ça va pas? Top. Alors les filles, il paraît qu'il faut qu'on parle de Pourim. Parce qu'il paraît que c'est Pourim. Mais on m'a dit, attention, elles ont déjà eu un cours sur les lois de Pourim.
40 minutes.
Hein?
Pour l'histoire,
il y a eu beaucoup.
Sur l'histoire, sur les lois, donc on connaît tout, quoi. Et Bichlal, l'année dernière, on a étudié ensemble Pourim. Il y a des gens qui se rappellent de ce qu'on a dit l'année dernière sur Pourim?
Le titre, c'est le même, je pense, que l'année dernière.
Non,
pourquoi
ils ont mis la même chose? Ce
serait une erreur. Par rapport à Amalek.
J'ai pas parlé d'Amalek, moi.
Ah bon? L'année dernière,
non? Non.
On avait parlé quoi, les quatre niveaux de l'explication de Mordechai.
C'est ça que j'ai parlé.
Hein?
Non,
c'était
sûrement
Amalek, mais pas
trop
pour lui.
Non, c'est ça, ouais.
Sûrement.
Ouais. Top. Non, en même temps que des rabbins ils parlent d'Amalek, l'époque de pourri, c'est pas non plus un finouche.
Normal.
Normal. Alors, on va essayer de faire un mix. Vous voulez des feuilles?
Oui.
Je sais pas alors de quoi vous parlez en fait.
Ouais,
de quoi on leur parle alors? Hein?
Oui.
Ouais, mais de quoi je... Parce que là, j'ai trois cours là.
Ah, non, chouette.
Alors, il y a, comme tu dis, Mordechai à Yehudi ou Mordechai à Chiloni. C'est une première version. Ou alors, Mizachor le Lotishkar. De la mitzvah de Zachor jusqu'à la mitzvah de l'autre. Ouais, c'est ça qui a été
préparé.
On s'en fiche. Ou alors la notion de Afen Ayub et Otohanes par rapport aux femmes à Pourri.
Ça, c'est
peut-être
ça. Ouais.
Ah, on a fait aussi avec Maria
Chin.
De quoi?
Ah, vous avez fait le cours sur Esther.
Sur Esther.
Qui a pris la responsabilité.
Exactement.
Qui à un moment donné, c'est.
Oui. Ça ressemble ou c'est
une autre... Non, ça n'a rien à voir.
Bah, j'aime bien la première.
Mordechai.
Non,
on peut...
Ouais, la dernière.
Bon, on fait un mix.
Allez.
Un mix, mais alors, je sais pas quel feuille vous donnez, en fait.
On fait un vote.
Ouais, on fait un vote.
Ouais.
Enfin, vote.
Mordechai.
La démon.
Oh, on est que deux. Non, Mordechai, c'est la première. Mordechai, Chiloli ou Dakshi.
Ah, moi, ça, j'aime bien.
Une, deux.
Je fais les femmes.
Les femmes. Ok, les femmes. Les féminines.
Donc personne ne veut, on a compris.
Le beau coup de
ça, je carbisais.
Ok.
Ah,
ouais.
On se divise vraiment, on fait un mix.
Bon, c'est comme les élections israéliennes. Quoi. C'est ça. Bon, vous savez quoi, on va essayer de faire un mix. On va essayer de faire un mix de plein de choses. Les yeux de salaire. Ça va? Top. Alors allons-y. Mesdames. Miché Nihlin Sadar. Quoi? Ah, tu l'as connu? Il a fait. Sauf que, Shalom, vous savez qu'à la base, avant d'être une chanson, c'était un enseignement de la Torah. Un enseignement en l'occurrence de la Gemara. Et c'est pas le début de l'enseignement. C'est quoi le début? Miché Nihlin Sadar. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a besoin de me raconter ça, c'est qu'en Havre, je dois être joyeux ou triste?
Non, j'aurais.
Bah à la base, j'aurais dû être joyeux. Et on m'a demandé d'être triste. Parce qu'il s'est passé un truc en Havre qui est extrêmement joyeux, mais qui, quand même. Ah. Et c'est quoi qui est très joyeux en Havre? C'est qu'il y a eu la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. C'est terriblement joyeux, puisque grâce à cela, on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est super vénère, il détruit des murs, mais il détruit pas nous. Ça, c'est cool! Bon, d'un autre côté, il a quand même détruit le Beth Amikdash. Donc, Miché Nihlin Av, Mema'atim, Besimcha. Alors qu'à l'inverse, en Hadar, tu devrais être extrêmement triste. Mais bon, il y a quand même eu une grosse histoire sympatoche. Donc, quand même, mais pourquoi tu devrais être triste en Hadar?
Parce qu'on a failli.
Hein? Parce qu'on a failli, effectivement. Oui, on a failli, mais on a gagné à la fin. Sois pas triste. Non!
Parce que Moshe est mort.
Parce que Moshe est mort.
Non, mais il est né aussi.
Ah, fallait bien qu'à un moment donné. Ah, il a eu 120 ans, Baruch HaShem, belle vie. Il a le droit de partir à un moment donné. Il n'est pas triste pendant la Hidoula de cette équipe. Hein? Et la mère, pas shoot. Vous connaissez la fin de la Hidoula? C'est quoi la fin de la Hidoula? C'est pas la fin, ça. C'est le 9e chapitre, mais c'est pas encore la fin. Shoshana Diagov, c'est déjà plus dans la Hidoula. Hein? Ça, c'est pas encore la fin, c'est la fin du 9e chapitre.
Oui.
La Yehudi va être en mais c'est la fin du 9e chapitre.
C'est l'étape.
Ça, c'est la fin du 9e chapitre.
C'est parce qu'on n'a pas étudié.
Parce qu'il y a un dernier chapitre qui est tout court, il fait que 4 versets. 4 versets.
C'est pas Baruch Mordechai Aruch Haman?
Oui.
Non, ça c'est pas dans la Megillah, c'est dans la chanson.
Ah,
je vais le répéter. Il y a 4 versets.
Non.
Oui, mais c'est pas la fin de la Megillah, c'est déjà la chanson d'après la Megillah.
Ah oui, les taxes.
D'accord. Il y a 4 versets dans le chapitre 10 où on nous dit que Vayasem Amelech Achashverosh Mas al Haaretz Veyaya. Qu'il y a une levée d'impôt. Bon, c'est pas un impôt antisémite, c'est un impôt pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que ça veut dire qu'à la fin de toute l'histoire, c'est qui est resté le patron? L'Achashverosh. En d'autres termes, à la fin de toute l'histoire de Pourim, t'es resté en exil.
Mais le problème de Pourim, c'était qu'on allait mourir.
Alors, c'est pour ça que je te dis. Bien sûr que c'est terrible de rester en exil, mais bon, dans cette histoire où t'es resté en exil, t'as quand même eu un danger immédiat de Haman et t'en as été sauvé. Donc, ça ne fait pas de ne pas dire merci. Donc, Miché Nihlin Sadar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire que bien que t'aurais dû être triste à la base de parler d'un événement qui, en fait, ta situation, elle n'a pas du tout évolué entre le début de la Megillah et la fin de la Megillah. Oui,
oui. T'es revenu en même temps. Il fallait bien un dirigeant, j'ai pas compris.
C'est quoi?
Il fallait bien un dirigeant, c'est pas un problème.
Il fallait bien un dirigeant? Oui, bien sûr. Voilà. Il fallait que tu reviennes en Israël avec Zerubbabel ben Shaltiel, sous l'ordre de Haggai Hanavi, lorsque le roi Koresh, avant Achashverosh, nous a dit de rentrer en Israël. Okay. Et toi, t'es resté. Résultat des courses, tu t'es retrouvé dans toute la situation de Pourim. C'est-à-dire que la situation des Juifs au début de la Megillah et la situation des Juifs à la fin de la Megillah, elle est la même. Elle n'est pas bonne. Elle est la même. Sauf qu'au milieu, il y a eu un truc encore pire. Tu sais, c'est comme si tu me disais Pourim, en fait, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui marche dans la rue et puis il tombe dans un puits. Bon, pas cool. Mais dans le puits, il y a un serpent. Et là, il trouve ses forces, il trouve une pierre, il écrase le serpent, il est content. mais toujours dans le pourri. Et c'est toujours, c'est ça l'histoire de pourri. Donc c'est quand même terrible cette histoire. D'accord? Donc Miché Nichnasaba, Marbil Besimcha, parce que quand même, t'as failli te faire tuer. Donc. Mais c'est. Seulement, quand on regarde justement de plus près, eh bien on se pose une question de base. D'où c'est parti les problèmes de la Megillah? C'est quoi l'événement qui a fait que ça a commencé à mal tourner pour les Juifs?
C'était la
rage
du roche.
J'étais la rage du roche, on était pépère.
Non,
c'est pas. On était même tellement pépère qu'il nous a fait des manottes cachées à la mer Adrien.
Quand il a tué Vachit.
Ça a été problématique pour les Juifs?
Bah, du coup, il a commencé à chercher les femmes et du coup, il a pris ça.
Mais ça, c'est plutôt bien pour les Juifs.
Ouais.
Bah, quand même.
Non, c'est au moment où les Juifs ont commencé à se mélanger avec.
Je parle pas au niveau de ce que l'enseignement que nous on veut en sortir. Dans le Megillah.
De quoi? C'est quoi
les
questions?
Ils ont été
offensés.
Il a dit non. Est-ce que. Quand t'as mal dit non. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Mais en tout cas, il y avait celui qui donnait le vin au festin. Oui, c'est pour ça que c'était lui qui donnait le vin. C'est chevou grave, hein. Quand on dit dans le Megillah que Achashverosh et Zekir Tson Ish Vaish, Chazal, ils disent dans le Talmud, Mazé Kirtson Ish Vaish, Kirtson Aman Ve Mordechai, Shayu Amashkim Ba Seouda. C'était eux les sommeliers de la Seouda. Et donc Aman, il a demandé quand même qu'il y ait du vin cacher pour les Juifs, et donc ils ont eu du vin cacher. C'est quand même chaud patate. C'est-à-dire, moi, je préfère encore voir les Juifs comme étant des Rechaïm qui mangent du cochon, qui vont donc à au Michel Achashverosh, plutôt que de dire que c'est des Juifs super religieux qui ont fait très attention que ce soit Me'adrin, Mina Me'adrin. Mais qui vont au micheté d'un Racha Merusha qui se balade avec les habits du Kohen Gadol. Je préfère les voir comme des mecs pas religieux. Mais même ça, le micheté, bon, bah d'accord, ils ont été, ils auraient pas été machin, mais dans la Megillah, tu vois pas que le fait qu'ils aient été au micheté va amener au problème. Dans la Megillah, il y a un événement tout simple qui amène des problèmes.
Comme
Mordechai, il se concerne. Non, Mordechai, il se concerne pas. Pas juste. Et le seul problème, c'est que la Megillah ne nous dit pas pourquoi. On ne sait pas, d'après la Megillah, pourquoi Mordechai ne se prosterne pas. Et je vous arrête tout de suite. On a le droit de se prosterner devant quelqu'un pour lui montrer du cadeau. C'est ce que mon fils il fait deux fois par semaine avant de commencer ses combats de judo. Zenikra Kida, d'après la halakha. Quand tu vois la reine d'Angleterre, tu dois lui faire la révérence. C'est Otodab. Qui a ordonné qu'il fallait se prosterner devant Aman? Achashverosh. C'est Pkudat HaMelech, Moutar. Donc pourquoi Mordechai il fait passer? Et à cause de ça, Aman il est super vénère et on ne nous dit pas dans la Megillah pourquoi Mordechai se prosterne. Alors, le pourquoi, on va le trouver chez nos sages, enfin chez les rabbinim, pas que dans le Talmud, mais au fur et à mesure des générations. Pratiquement tous les commentaires qui sont écrits sur la Megillah partent de cette question-là. Et donc, en fonction de ça, ils vont donner un autre style à Mordechai, et tout le reste de leurs commentaires va en découler. Le premier avis que je voudrais vous amener ici, c'est l'avis de Rashi. De pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné? Alors ça ne vient pas de Rashi, ça vient du Talmud. Rashi ramène l'avis du Talmud. Et il dit qu'en fait, Mordechai était prophète. Il faisait partie des prophètes. Et il savait, en tant que prophète, que Aman se prenait lui-même pour une idolâtrie. Il se prenait pour un dieu. Sachant ça, Mordechai ne peut pas se prosterner. Maintenant, Aman, il n'en a pas fait un truc officiel. Parce qu'il ne veut pas se faire tuer par le roi. Il n'y a que le prophète qui le sait, Mordechai, donc il se prosterne. C'est-à-dire ? Donc cette première explication nous dit que Mordechai était prophète. Ça le place quand même pas mal dans la hiérarchie juive. Oui, tu veux dire quelque chose?
Bah, justement, à l'époque de la Megillah, il y avait des prophètes.
Alors, on est sur la toute fin de la toute fin.
Ok.
Ok. C'est-à-dire qu'on va retrouver les derniers prophètes avec des noms, c'est-à-dire qui ont des livres à leur nom, juste avant, c'est-à-dire 40 ans avant la Megillah, Chaga, Esraïa, Malachi, mais on va trouver les derniers prophètes après la Megillah dans la Anshe Knesset Agdola. Donc Mordechai est au milieu. Okay. Le deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Rabbi Avraham Ibn Ezra, il donne un autre avis. Il dit que Aman avait sur son habit des symboles d'idolâtrie. Donc à ce moment-là, tu ne peux pas te prosterner devant lui. Pashut. Maintenant, d'après cette deuxième explication, Mordechai n'est pas obligé d'être prophète. Il suffit d'être un Talmid Chacham qui connaît la Halakha, tout simplement. Et donc le deuxième avis voit Mordechai comme étant un rabbin, un Talmid Chacham. Troisième avis, c'est celui du Midrash. Midrash, par exemple, dans la Haggadat Esther, Midrash sur la Megillah, qui nous dit qu'en fait, pas du tout, ils ont une rivalité, Mordechai et Haman, qui les ramène bien avant l'histoire de Pourim. Et le Midrash nous raconte toute une histoire, qu'on peut retrouver dans le Talmud d'ailleurs, que Mordechai était revenu en Israël après la déclaration de Koresh avec Zerubbabel. Il faisait partie de ceux qui étaient revenus en Israël. Et il faisait partie des dirigeants de la communauté juive d'Israël. Et c'était quoi le grand projet de la communauté juive d'Israël ? La reconstruction du Beth Amidrash. Au même moment, Haman habitait au village de Kartsoum dans la Samarie, en Israël. Il est un juif, évidemment. C'est parti des Arabes de l'époque. C'est pas des Arabes, mais comme j'ai dit. Lorsque Achashverosh est monté au pouvoir, eh bien, les deux ont envoyé, enfin, les deux groupes humains, les juifs et les non-juifs d'Israël, ont envoyé une délégation à la Maison Blanche de Perse, plaider leur cause auprès du nouveau patron. Midrash va même raconter l'histoire qu'en chemin, Haman n'a plus à manger, et il demande à Mordechai de lui donner à manger, et il dit « Ok, mais tu te vends à moi comme esclave, et c'est marqué sur la sandale de Mordechai le contrat de vente. » Et finalement, ils arrivent tous les deux en Perse, les deux vont grimper des échelons du gouvernement perse, Mordechai va devenir ministre de la Justice, qui est au début de la Megillah, « V'uyoshev b'shar ha-melech », alors que Haman va devenir premier ministre du gouvernement. Maintenant, ils sont tous les deux des opposants politiques. C'est genre, tu me dis, tout d'un coup, il y a Ahmad Tibi qui devient premier ministre et on donne l'ordre de se prosterner devant lui. Est-ce que vraiment, vous allez voir, Naftali Bennett se prosterner devant lui? Ah ! Et donc, sur un fond politique, Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. Selon cette troisième explication, Mordechai n'est plus un prophète, il n'est même plus forcément un rabbin, il est un dirigeant sioniste qui essaie de plaider sa cause auprès du roi de Perse. Quatrième explication qui nous vient d'il y a 450 ans à Tzfat, de la part de la Chavruta de Rabbi Yosef Karo, pas un petit joueur, et de Rabbi Moshe Alcher, qui s'appelle Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, il a écrit un livre qui s'appelle Maaseh Hashem, et dans son commentaire de la Megillah, il dit pourquoi est-ce que Mordechai ne se concerne pas. Mais c'est très simple. En fait, Mordechai était le chef de la communauté juive de Shushan, pas forcément religieux ou quoi que ce soit, mais il était le chef des juifs à Shushan, et il voulait faire valoir les droits de la communauté. Il dit Rabbi Eliezer Ashkenazi qu'il y avait une loi à l'époque de Achashverosh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la loi est toujours en vigueur à son époque, sous la domination des Ottomans, des musulmans, que lorsqu'on demande à des gens de se prosterner, ça ne concerne pas les juifs. Les juifs ont le droit de ne pas se prosterner, parce que pour eux, qui est le premier peuple à être sorti d'esclavage, on lui fait un kavod, qu'il n'a pas besoin de se prosterner. Et donc, Mordechai, en tant que chef de la communauté, véritable Joël Mergui des juifs de Shushan, il veut faire valoir les droits de la communauté, il ne se prosterne pas. Pourquoi les autres se sont prosternés? Ils ont eu peur. Et donc, selon cette quatrième explication, Mordechai est un chef communautaire. Il n'est évidemment pas prophète, il n'est pas forcément rabbin, il n'est pas sioniste. D'accord ? Achashverosh,
il contrôlait le monde entier ou il avait
qu'une... 127 provinces, c'est quand même pas mal. Hein,
non, je ne sais pas ce que c'est.
Mais Hodou Véatrouch, de l'Inde à l'Éthiopie.
Mais c'est un royaume ou c'était vraiment...
C'est un royaume, tu sais comment ça marche. Chacun avait leur plus ou moins royauté, ils devaient verser des impôts au patron. Ok, c'était des vassaux. La dernière explication, la cinquième version de Mordechai, et nous est ramenée par un rabbin qui porte son nom, qui s'appelle Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Bah, il s'appelle Mea Shiloach, c'est le rabbi de Ishbitzer. Rabbi Mordechai Yosef Leiner, plus connu sous le nom de Rabbi Mi-Ishbitzer, le rabbi de Izbitza, pas de Ibiza, de Izbitza.
Comment ça s'écrit
Ishbitzer, en hébreu En français, comme tu le prononces, tu t'en fiches.
Ah, ok. Rabbi...
Izbitzer. Tiens, tu sais quoi, on va faire plus simple. Ishbitzer. C'est un des grands maîtres de la chassidoute. né au 18e siècle. D'accord ? Azaïbitzer, il dit comme ça. Il dit, et l'avantage de son explication, c'est que c'est la seule qui a des références dans la Haggadah. Et il nous dit que pour lui, Mordechai était un juif assimilé complètement. Du rapporté. Pourquoi un juif assimilé ? Il dit, bah, d'abord, il s'appelle Mordechai. C'est comme si tu l'appelais aujourd'hui Christian. Mordechai, c'est Mordor. Et Mordor, c'est le nom de la Avodah Zara principale de la Perse et de la Babylonie. Marduk, en français. C'est le dieu principal, c'est genre le Zeus des Perses. Ouais, c'est chaud patate. C'est Christian d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, alors que Esther, c'est pas mieux. Elle a un nom juif. Elle s'appelle Hadassah. Mais tout le monde l'appelle Esther. Esther, c'est Marie-Madeleine. Enfin, en Perse, c'est Istar. C'est la déesse de l'amour, de la sexualité, de la lune. Donc, moyen en termes de nom. Alors, tu vas me dire, c'est pas parce que mes parents m'ont appelé comme ça que je deviens forcément assimilé. Nakhon, t'as raison. Mais, en général, ça veut dire que tes parents ne viennent pas de Bnei Brak. C'est a priori.
Mais à cette époque-là, ils n'étaient pas tous renommés.
Ils n'étaient pas tous
renommés.
Pas du tout.
Parce que par exemple Daniel lui aussi
s'appelait Daniel. Parce que Daniel il est arrivé Bechatzar Betamelech. Parce qu'il est arrivé dans le... au palais. Alors, au palais, d'accord, mais là Mordechai au début de l'histoire, c'est un mec lambda.
C'est Hadassah. Okay.
Ils
n'étaient pas
renommés. Oui, son prénom en héros c'est Hadassah.
Quoi ?
Moi
c'est pas juif. Esther
Hadassah.
Non,
il
me demandait
c'est quoi Esther.
Esther, Esther c'est pas juif.
Pourquoi j'avais pas, j'ai pas suivi.
Parce que Esther, il dit le Talmud dans le traité de Megillah, c'est Istar. Astarté en français, c'est la déesse babylonienne de la sexualité.
Ah ok.
Okay.
On a une question avec Nathalie.
Oui,
est-ce que c'est un problème
de s'appeler Astarté?
De s'appeler Mordechai aujourd'hui, par
exemple. Ah non, Vadaï Shelo. Pourquoi déjà la Gemara elle essaye de trouver un nom, enfin de faire un jeu de mots juif sur le mot Mordechai. Elle dit non, en fait Mordechai c'est Mordéror, c'est la liberté et tout ça, machin, c'est fait. En gros, okay. Mordechai par ses actions, a fait rentrer le nom Mordechai dans la cacheroute.
Ok.
Pareil pour Esther. C'est-à-dire que tu la connais plus en tant qu'Esther qu'en tant qu'Hadassah. Et donc, vu que Esther s'est révélée comme étant une syndicat, alors, c'est-à-dire maintenant tu peux y aller.
Au début de l'histoire, je
pense
que c'est très difficile.
Ce que j'essaie de t'expliquer, Rabbi Mordechai Yosef Lanser, c'est qu'au début de l'histoire, tout laisse à penser qu'ils ne se comportent pas du tout comme des juifs fiers de leur judaïsme. Exemple. Exemple. Si maintenant, on doit arriver à Bilev, pour aller amener les jeunes filles de Bilev pour le harem. Ah oui, puisque Vashti elle est morte et que Achashverosh il veut toutes les jeunes filles pas mariées, il y a là. Donc on rentre à Bilev. Je sais pas, mais je pense que s'il y a des gardiens d'Achashverosh qui arrivent ici à Bilev, bah, ça va pas être très compliqué de savoir que c'est des juifs qui habitent ici. Non ? Il y a des mezouzot. Il y a des livres de Torah, il y a des diables de Tasmanie avec des kippotes, il y a le génie avec des tefillines, il y a le sidour de Donald, c'est baron que c'est des juifs. D'accord ? Maintenant, c'est bizarre cette histoire. D'ailleurs, à propos de Mezouza, vous avez vu que le grand rabbin d'Israël a dit qu'il ne faut plus embrasser la Mezouza.
Ah ouais ?
Ça
n'a
jamais été une mitzvah.
C'est vrai ?
Oui, c'est assourd d'embrasser la Mezouza aujourd'hui.
Du Corona ?
Ouais. Donc c'est devenu assourd d'embrasser la maison. Bientôt
sera assourd d'embrasser le Sefer Torah aussi, sa femme.
D'abord, je préfère que tu n'embrasses pas le Sefer Torah pendant 2 mois et que tu ne chopes pas le corona. Deuxièmement...
Alors quoi, on a plus confiance en Hachem, genre...
Quel rapport ?
Il y a le risque,
mais c'est on va avoir confiance, mais c'est pas la peine de se mettre dans des situations...
C'est pas mortel, le truc.
Non, mais c'est la question. C'est pas la peine de faire des trucs qui ne sont pas du tout obligés par le judaïsme, si ça peut te mettre en danger. Non ? On a une mitzvah de lire dans la Torah. On n'a pas une mitzvah de faire des bisous toute la journée au Sefer Torah. Quoique le Sefer Torah, c'est quand même beaucoup moins porteur de germes. Parce que le Sefer Torah, il est, de manière générale, dans le Haron, il y en a un qui le sort, c'est-à-dire...
Deux fois par
jour. Ouais, mais la maison, tout le monde l'embrasse. Déjà pas tout le monde l'embrasse. Et la mezouza, il y a quand même beaucoup plus de passages dans la mezouza. Mais je suis d'accord avec toi que même le Sefer Torah, yalla, makara.
Non, c'est vrai.
pas très grave de ne pas l'embrasser. Le plus important, c'est d'étudier plutôt que de l'embrasser.
Côté.
Mais t'inquiète pas, hein, le coronet, il va finir à un moment donné.
Non mais c'est triste quoi.
De toute façon
celui qui
doit
choper,
il faut se protéger.
Jusqu'à dire
c'est pas de choper, c'est comme si t'avais une grosse vie. Bah.
Le problème c'est que c'est un
virus qui... Tu sais qu'on n'a pas toujours embrassé les maisons.
Ouais, c'est bien d'embrasser les
maisons. Oui, c'est bien, d'accord, mais si tu sais que maintenant les germes ils se baladent sur les mains toutes les 5 minutes et qu'il y a quand même un virus qui est très contagieux qui se balade, c'est pas la peine de te mettre dans cette situation là.
En tant que jeune, c'est pas un problème.
Ouais, voilà, tu fais sans toucher. Tu fais Bluetooth. Hein? Mais Kitso, quoi qu'il en soit, quand ils sont venus chercher Esther dans sa maison, ils n'ont pas vu qu'elle était juive. Et puis une mezouza à l'entrée. Il n'y avait pas la photo du rabbi. Comment c'est possible? Et pourtant, Mordechai lui dit, surtout tu dis à personne que tu es juive. Et elle ne dit pas.
J'ai quand même un truc. Il est intelligent dans Mordechai. Peut-être qu'il se doutait que les gardes allaient venir et donc il a tout planqué. C'est possible. Parce que les
mezouzot,
il a
le
droit
de
l'enlever si c'est, je sais pas, quelques heures et puis après il les voit arriver.
T'as vu le
dilemme?
Il y avait un
peu de l'enlever. J'ai pensé.
C'est
exactement à ça.
Voilà. Tu as vu ou pas? Il y avait la scène où il essaie de tout planquer. Ça se voit quand même.
Ouais, mais bon.
Bah, non, je m'en dévoile. Il a planqué la maison parce que. Dans le cas de ma fille, Mordechai, c'est un chassid. C'est-à-dire qu'il a un Steimel, il a des périodes comme ça, il a une barbe. Évidemment, parce qu'en Perse, il y a 2300 ans, il avait des périodes comme ça, et des... pas de problème. Et donc, pour l'occasion, il a fait comment? Il s'est caché les périodes, il a mis un bandage autour de la barbe. Non, d'accord, mais t'as compris. Ça veut dire quoi? Maintenant, attends, je vais te dire même ça. Quand elle est arrivée, finalement, dans le harem, elle se fait copain avec Attar et avec d'autres sarissim là-bas. Et à un moment donné, on lui donne Ketouf Bet Anashim. On lui donne ce qu'elle kiffe. La Gemara dit dans Matzavet Megillah qu'il lui apportait à manger ce qu'elle voulait. Et il y a deux avis dans la Gemara, Rav Shmuel. Et il y en a un qui dit qu'elle demandait Ma'achal Yehudi. Un peu de Kigel comme ça, ça lui faisait bien. Mais l'autre avis du Talmud, c'est quoi? C'est qu'elle demandait des côtes de porc. Ah, n'importe quoi, c'est pas moi. C'est le Talmud. Le Talmud, c'est Shmuel à Amora. Et il disait que, ouais, est-ce qu'elle demandait des kidley de Khazir. Et ça, c'était ça son plat préféré. Maintenant, si tu les vois comme étant des gens assimilés, c'est pas quelque chose qui est choquant. Ok? Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, elle nous dit quand même. Le brave Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qu'à un moment donné, ils ont un switch. Ils ont fait tchouva. Quand ils ont vu le décret. Quand ils ont vu le décret, ils ont vu que bah, tout le monde allait y passer dans le décret, y compris les juifs assimilés.
Mais vous avant savez, il y a plein de gens qui... il y avait un risque d'être juif. Enfin, c'était...
Comment ça? Avant le décret?
Oui, avant. Bah, non. Alors pourquoi est-ce caché de son identité?
Ah, mais c'est pas parce que forcément il y a d'antisémitisme.
Les
dis-moi, tu veux que je te rappelle ce que c'était les juifs à la fin du 19e siècle en France? Ils avaient rejeté leur identité juive, pas parce qu'il y avait de l'antisémitisme, c'était avant l'affaire Dreyfus. Okay. Dreyfus, comment il est devenu Dreyfus? Complètement assimilé, pas de Brit Mila aux enfants, machin, là, là. C'est pas parce qu'il y avait eu l'affaire Dreyfus. C'est parce que c'était beaucoup mieux d'être français, de s'intégrer. Enfin, on n'en connaît pas aujourd'hui des gens qui veulent s'intégrer. C'est vrai? Mais quand ils voient que finalement on va tuer tous les juifs, y compris les plus assimilés, il dit ah non, alors ça va pas. Et donc à ce moment-là, fait remarquer le rabbi de Eichbitzer, qu'à ce moment-là, à partir du décret, dans la Megillah, on l'appelle plus Mordechai, on l'appelle Mordechai Hayehoud.
Mais s'il était complètement assimilé, comment ça se fait qu'au Mishté, il sert, c'est lui qui s'occupe de la nourriture cachère en quelque sorte?
Non, encore une fois, Kirtson Ish Vaish, l'avis de Chazal qui dit que c'est Mordechai, c'est le même avis de Chazal qui dit qu'il était prophète. Donc, si tu veux, ils sont cohérents à ce niveau-là. Mais il y a d'autres avis. Ok?
J'ai pas compris comment cet avis explique pourquoi il ne s'est pas prosterné.
Alors, j'ai pas encore dit.
Ah oui, c'est ça. Oui, c'est
donc, j'y viens. C'est l'avis le plus simple, en fait. Parce que je suis le beau-père du roi. Il vient de se marier avec ma nièce. Je suis de la famille royale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, dans la Megillah, Tu vois que Haman, il veut pas tuer Mordechai, il sait qu'il peut pas. Mais il veut l'ifgoa be'am Mordechai. Et lui, Mordechai, il est perché, mais les autres, non.
Juste un truc, on est d'accord que quand Esther, elle a été au mariage de Poutine, elle était mariée avec Mordechai à cette époque.
C'est un avis. Parce que dans la Megillah, on dit qu'elle était pour elle une fille. Il en les battre.
Parce que c'était son oncle.
Voilà, bon, c'est son oncle.
Mais on dit que...
Alors, Chazal, il y a un avis qui dit qu'en fait, les battre, ça veut dire les baït, et ça veut dire qu'il s'est marié avec elle.
Ok, voilà.
Ok. Oshéken, Oshélo.
Non, ça veut dire qu'elle a été au harem, mais dans le cas où ils étaient mariés.
Dans le cas où elle est mariée.
Les gens ne savent pas qu'elle est mariée, qu'elle est mariée avec lui.
Ah, ben, ça, dans le cas où elle est mariée, c'est un vrai problème. Il faut que, dans le cas où elle est mariée, eh ben, on a besoin de dire qu'il y a eu un miracle et que sa virginité lui a repoussé quand elle est arrivée dans l'harem. Donc c'est compliqué cette histoire. Ok, okay. Donc on a 5 avis. Prophète, rabbin, sioniste politique, juif communautaire et juif assimilé. Seulement, la Bible là, elle n'aurait pas pu prendre 2 secondes pour nous dire lequel des 5 c'est le vrai. Ça aurait été plus facile. Et la Bible là, elle ne nous dit pas, pour une raison très simple, Chas v'shalom, que tu saches qui c'est le vrai Mordechai. Parce que Haman, il a voulu tuer qui?
Tout
le monde. Et donc, Mordechai, ça peut être les 5. Parce que les 5, vous avez compris que c'est tout le peuple juif. Et que de notre côté, il y a aussi une dimension de se cacher à Pourim. Il y a des déguises. En fait, il y a plein de maséchot, il y a plein de masques qu'on enlève. Et en fait, si on regarde bien, derrière chaque juif assimilé, si tu creuses bien, tu vas trouver un juif fier de ses origines. Derrière chaque juif communautaire, si tu creuses bien, il dira quand même l'an prochain à Jérusalem. Derrière chaque juif sioniste, même le plus chiloni à Tel Aviv, si tu creuses bien, il va finir par te dire qu'il aime, il est amoureux de ce pays, parce que c'est celui d'Abraham, Yitzhak, de Yaakov, et que c'est le pays que Dieu nous a donné. Et c'est marqué où?
Dans la Torah.
Même lui, il sera obligé de le dire à un moment donné. C'est-à-dire que derrière chaque juif sioniste, même le plus moins religieux possible, se cache un rabbin. Et derrière chaque rabbin doit se cacher, et va se cacher, un prophète. Parce que la finalité du peuple juif, c'est de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Donc on ne nous a pas dit qui était Mordechai. Parce que c'est très important que tu ne saches pas qui est Mordechai. Pour que ça puisse être tout le monde. Et c'est ça le grand secret de Esther. Maréchal vous a expliqué. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi sa phrase fétiche? L'air kenos et qui? Et kol à Yehudim. Vas-y, kol à Yehudim. Tous les styles de juifs. Et kol à Yehudim, ma chère Béchoucha. Non, cette dimension, elle est fondamentale. Cette dimension, elle est fondamentale parce que trouver tous les styles de juifs, c'est la mission de Paul. Il faut être capable de faire tomber les barrières pour trouver tous les styles de juifs. Et donc, pour pouvoir faire tomber les barrières, qu'est-ce que tu fais? Tu bois un petit coup. Eh oui. Pour y mon bois. La main. Ben, qu'est-ce que ça a comme propriété de boire un petit coup?
Ça détend.
Ça va, ça enlève les barrières. Ça enlève, pas juste les barrières. Parce qu'au final, tu dois te retrouver avec tout le monde. C'est la dimension la plus importante de Pourim. La dimension de Kulam. Tu citais tout à l'heure la chanson de Shoshana Tiakov, Tsa'ala Vesamecha, Lirota Miyachad. Très vite, Mordechai. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils ont vu, les gens. C'est vrai que dans l'habit qu'on lui met à Mordechai, il y a du trélet aussi. Il y a aussi plein d'autres couleurs. Pourquoi est-ce que c'est Dafka le trélet de Mordechai? Il y a un qui a dit, c'est ce tzitzit. Nounou. Dans son habit, il y avait du trélet. Mais pourquoi est-ce que c'est sur celui-là qu'on s'est focalisé? Vous savez que la seule couleur qui est mentionnée dans la Mishnah comme étant la couleur fétiche de Dieu, c'est le trélet. Puisqu'on dit la Mishnah que la trélet domé la yam, va yam domé la rakia, va rakia domé le yvnata sapir, le yvnata sapir domé le sakabo. Que le trélet ressemble à la mer. Couleur bleu trélet.
C'est quoi le trélet?
C'est le bleu, bleu azur. Okay, okay. Ressemble à la couleur de la mer, okay. Qui elle-même ressemble au ciel, qui ressemble. Seulement, grande question qui sont posées par les maîtres de la Chassidoute. Il dit, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai déjà été à la mer. J'ai déjà pris de l'eau de la mer. C'est pas très bête.
C'est le reflet.
C'est le reflet du ciel. J'ai déjà pris un morceau de ciel. C'est pas très bête non plus. Alors tu vas me dire, mais non, mais c'est la réfraction de la lumière blanche du soleil dans les zones, et ben... C'est d'accord, mais on s'en fiche de la, au niveau scientifique de pourquoi c'est bleu. Au niveau moral, qu'est-ce que ça nous apprend? Les amis, c'est quand que la mer, elle est bleue? C'est-à-dire quand tu regardes... Oula. C'est-à-dire quand tu la regardes de manière générale, alors tu vois le trait. Quand tu vas commencer à regarder particulier, elle est plus très nette. Le ridouche de la chanson... C'est l'irotam yachad, très lettre Mordechai. Ils ont compris que toute l'idée, c'était la notion de très lettre, que l'on arrive à voir quand on comprend qu'il y a une dimension collective. Cette dimension collective, elle est fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est fondamentale? À Pourim, on a pris conscience de quoi? Que notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il est indéfectible. C'est quoi il est indéfectible? Il est là Dieu ou il n'est pas là Dieu dans la Megillah? Mais il n'est pas marqué. Il est là mais il n'est pas marqué. Chez Ella. Vous connaissez un livre du Tanakh bien? N'importe lequel, je m'en fiche. Il y en a un, il y a une paracha que vous connaissez pas mal. Je sais pas, il y a un. Non, rien. Oh, moi tu sais, les chronologies vite fait, quoi. Bérégie, tu connais deux points, non? Si je te demande où il est marqué Dieu dans la Torah, tu peux me citer un verset?
Il a fait.
Donc, si je te demande où est marqué Dieu dans la Torah, tu sauras me répondre. Donc, où est Dieu dans la Megillah? Amelé, tu m'as fait une dracha. Sans la dracha. Où il est Dieu dans la Megillah?
Il n'est pas.
Il est pas?
Il est où?
Il
n'est pas visible.
Mais il est où?
Il est partout.
Il est partout. Parce qu'il est nulle part, je peux dire qu'il est partout. Dans la Torah, je ne peux pas dire qu'il est partout. Parce que dans la Torah, il est là où il est marqué.
Mais en vrai, il est partout.
Ben non. Parce que Dieu, quand il décide de se dévoiler dans la Torah, il y a des versets, c'est Dieu qui a dicté à manger. Donc il y a des versets où il a dicté qu'il se dévoilait officiellement. Il y a des versets où il ne s'est pas dévoilé, où il n'a pas dicté à Moshe qu'il était là. Mais dans la Megillah, comme il est marqué nulle part, c'est qu'il est partout. Cette dimension de Akadosh Baruch Hu, il est partout, c'est ça la dimension de Pourim. Et c'est ça aussi cette dimension de je bois un petit coup. Parce que nous dit la Gemara dans Masechet Yoma que Ashikor, c'est bien ça, Ashikor, Aolam Dome Alav Kemishor. Le bourré, le monde entier ressemble à une grande plaine pour lui. C'est quoi le monde ressemble à une plaine? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence, montagne, vallée, truc, tout est une grande plaine. Le mec, il est bourré, il n'y a pas de différence. Mais c'est bidiouk ça. Chaya vinish le besoume bepouraya. Tu dois boire à Pourim. Alors je ne donne pas un cours de halakha, je ne sais pas si vous avez posé la question. C'est qui vous a fait le cours de halakha de halakha de Pourim?
La serre.
Ah, c'est juste après moi? C'est qui?
Non,
mais je suis ravi. Vous avez déjà
vu? Je suis ravi.
Bon, mais qu'est-ce que j'imagine que si vous lui posez la question de est-ce qu'on a le droit de boire, il va vous dire que non.
Il a dit juste un petit cocktail, tu vois.
Un petit cocktail vite fait, machin. C'est... Je ne rentre pas donc dans les chez l'autre de halakha, ceux qui veulent me demander à moi qu'est-ce que j'en pense.
Quelle est votre réponse?
Vous avez dit.
Mais non, il y a un maradéatra. De toute façon, je n'ai pas le droit de vous donner la halakha ici, pour la simple raison qu'il y a un maradéatra à Bilev, il y a un décisionnaire à Bilev, il s'appelle le Rav Lemel. Il a mandaté le Rav Mimoun, comme vous dites, de vous enseigner la halakha, donc c'est assourd pour moi de vous donner une autre halakha. Hein? C'est quoi? Que le Rav Lemel, c'est le patron ici?
Non!
C'est pas lui dire, c'est très content!
Ça
fait mal quand tu posais la halakha. Ben non, mais je sais pas, vous me dites que vous êtes. Non, j'en sais rien, mais vous me dites que vous avez léché un chiour de l'Ikhot Pourim du Rav Mimoun là maintenant.
Non.
Ah, vous avez eu, bah l'autre jamais. C'est-à-dire que le Rav Lemel a dit bon, bah ok, c'est toi qui vas faire le cours de halakha de Pourim. C'est vrai. Fair enough. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de venir vous donner un autre avis. Donc de toute façon, on a l'habitude de donner comme indication aux jeunes de pas trop boire parce que nanana. C'est-à-dire c'est ça. C'est ça. La Gemara, quand elle te dit que tu dois boire, elle te dit que tu dois boire jusqu'à ne plus faire la différence entre Ahur Haman et Baruch Mordechai. C'est-à-dire tu dois arriver à une dimension à Pourim, et je vais dire une phrase terrible, terrible. Tu dois arriver à une dimension, je sais pas, donnez-moi le nom d'un grand rabbin pour vous que vous... Je sais pas, pour vous est important. Le rabbi. Tu dois arriver à une dimension à Pourim, mais c'est terrible de dire cette phrase, on n'a pas le droit de la dire cette phrase. Que le rabbi et Hitler, c'est auto d'avar.
Mais pourquoi ça?
C'est ouf, mais c'est ça qu'on dit. Ahur Haman et Baruch Mordechai, pas de différence.
Mais
ouais,
pourquoi?
Parce que, en fait. Non, parce qu'à aucun moment, Chassid Shalom, tu dois arriver à dire Ahur Mordechai et Baruch Haman. C'est-à-dire que non, jamais. Par contre, tu dois arriver au stade où tu comprends que Haman sera toujours Ahur et Mordechai sera toujours Baruch. Mais que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile derrière, au travers de Mordechai, et il se dévoile aussi au travers de Haman.
Alors, je ne comprends pas. Vous dites, on doit boire jusqu'à...
Jusqu'à comprendre que Akadosh Baruch Hu, il se dévoile partout.
Mais quoi qu'il arrive, on comprend. Enfin...
Oui, sauf que quoi qu'il arrive, on le comprend, mais il y a plein de choses dans lesquelles on n'ose pas le dire. On ne veut pas le dire. On ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le coronavirus. On ne veut pas. On a vu qu'il était prophétisé dans Astérix il y a 3 ans. Mais non, vous n'avez pas vu?
Non, c'est vrai.
Dans l'album d'Astérix qui est sorti il y a 3 ans, eh bien le méchant s'appelle Coronavirus et il porte un masque.
C'est marrant.
Ça, c'est pas marrant. De la dévoile.
C'est rigolo.
Ouais, enfin, je vous rassure, des coronavirus, il y en a eu plein avant celui-là. Donc c'est pas...
Non, mais moi je comprends pas pourquoi la Gemara dit on doit...
Parce que arriver à la compréhension, comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que Dieu, il se dévoile par le bien, Baruch Mordechai, mais Dieu, il se dévoile aussi des fois par le mal. Mais tu ne veux pas le dire, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas te référer à cela. D'ailleurs, quand tu te référeras à cela, ce sera une seule fois par an et tu seras bourré. C'est-à-dire, parce que consciemment, tu ne vas pas aller de ce côté-là. D'accord ? Et moi, je veux dire autre chose. Cette dimension de Nichnas Yain Yotse Sod, la gematria du mot Yain, c'est la même gematria que le mot secret. C'est une dimension qui est fondamentale. Et je vais vous raconter, il y a un truc personnel. Très personnel.
Moi, j'aime.
Non, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de te mettre à l'envers. Mais je vais vous dire un truc très personnel. Mon premier michté à la yeshiva, il y a quelques années de ça déjà, on était bien. Mais bon, on n'osait pas trop. Le Rosh Yeshiva, il était torchon, chiffon, carpette. Il était Adeloyada, la méade. Mais Bikdusha Atsuma. Kitso. Et on était tard dans le Mishnah, il était déjà nuit. Et donc à un moment donné, il a tapé sur la table, il a dit Maïriv. Ça veut dire vite. En Ashkenaz. Tu es là. Donc on va tous au Beit HaMidrash, on chante et tout, machin. Et le Rav, il commence à prendre un talit, et il met le talit, et il veut prier. Et moi, je viens le voir, je dis à Rav, assure la Rav Lid Palel. Il me dit, quoi? Pourquoi? Je dis, Rav Shikor. Et il me dit, Azma. Il me dit, Shikor, assure le Lid Palel. Il me dit, bah, alakha. Alors il me dit, Tochiach, prouve-le. Je dis, ok, attends 2 secondes. Je t'ai cherché dans la bibliothèque, au Beit HaMidrash, je lui ouvre, je lui montre, il prend le livre à l'envers, il le prend à l'endroit, et comme ça il se concentre et il dit « Shikor asur lo leitpalel ». Et là il ferme le livre, il l'embrasse de tout son amour, il me le colle sur moi, il me dit « Oh !» Je lui dis « C'est bon, j'étais bien là ». Et il me dit « Idiot !» Je commence à dire. Il me dit « Depuis quand, d'après la halakha, un shikor il est chayav b'shulchan aruch ?» D'après la halakha, quand tu es bourré, tu n'es pas tenu de faire la halakha. Parce que tu es bourré. Alors, c'est évidemment pas un truc qu'on détermine le khatrila, on te dit pas sois bourré pour que truc, mais je peux t'assurer qu'il a balancé la tfila après. On a rarement vu des tfilas comme ça. En même temps, il pleurait, en même temps, il dansait, en même temps, il était. elle, tu sentais qu'il ressentait la Kadosh Baruch Hu partout. Et ça, c'est la grande différence entre ces deux mitzvot qui vont arriver là, ce Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat Zachor. La mitzvah de lire Parashat Zachor. Mais quand on fait bien attention à la Parashat de Zachor, en fait, il y a deux mitzvot. Il y a deux mitzvot dans la Parashat. C'est quoi ?
Zachor et
Ça commence par Zachor, Asher Asalcha Amalek, machin, et ça termine par Lo Tishkach. C'est deux mitzvot différentes. Souviens-toi et n'oublie pas. Dans le Rambam, c'est marqué comme étant deux mitzvot différents dans le Sefer HaMitzvot. Comment on fait mitzvot Zachor ? Bah, on lit Parashat Zachor. C'est-à-dire qu'une mitzvah, pour savoir comment la réaliser, il faut la déterminer par des critères de halakha. Donc la mitzvah de Zachor, on te dit, souviens-toi, comment il faut faire ? Bah, tu lis mitzvah Zachor. Mais comment tu fais la mitzvah de Lo Tishkach ? Caché. Mais c'est Lo Tishkach. N'oublie pas. Alors, il y avait un autre rabbin. Alors, je vous ai balancé le rabbi de Schwitzer tout à l'heure. Je vais vous balancer un autre nom pas facile à écrire. Bref. C'est un Rebbe Meusiatin. Usiatin. Enfin, c'est plus facile. Le rabbi de Usiatin.
Ah oui, c'est comme mon nom.
C'est quoi, quoi ?
Ça ressemble à mon nom de famille. Utmizgin.
Aucun rapport en fait.
Ah, mais dans le même
allemand. T'as déjà commencé pour une fois. T'es déjà. Adeloyada quoi.
Utsiatin.
Utsiatin. Rebbe Meusiatin. C'est le petit-fils. C'est le petit-fils du rabbi de Rougine. Rougine, c'est une grande dynastie chassidique. Un des élèves du Magui de Mezrich, rabbi Israël de Rougine. Et son petit-fils, donc le rabbi de Utsiatin. Bon, c'est un rabbi incroyable. Il a fait son alliance en 1921. Mais contrairement à tous les autres religieux qui arrivaient en Israël à cette époque-là, qui se posaient soit à Jérusalem, soit à Tzfat, soit à Hebron, lui, il est venu habiter à Tel Aviv. Tel Aviv. Il est devenu le voisin de Bialik. Et donc, dans la rue, elle est devenue la rue Bialik. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas la rue Usiatin, mais bon, c'était voisin. Et le rêve de Usiatin, quand on lui a demandé « Mais pourquoi vous êtes venu à Tel Aviv ?»« Tel Aviv d'Afka. » Et il dit, parce que moi, je veux venir dans une ville juive. Là où il n'y a pas d'église, une ville juive. Je m'en fiche, religieux, juive. Donc il est venu ici à Tel Aviv. Kitzur, le Rebbe de Usiatin, à la Iloula de son grand-père, une des Iloulot, il raconte une histoire. Il dit, voilà, je vais vous expliquer qui c'était mon grand-père. Mon grand-père, quand je me suis marié avec, bon, c'est chez les chassidim, ça se marie entre rabbins. Il dit, moi je me suis marié avec la fille du rabbi de Tchernobyl. C'était avant.
Ah, j'ai été voir l'amour, moi, une fois.
De
Tchernobyl.
Oui, c'est pas le même.
Ah, c'est pas la même.
Attends, il est. Enfin, mon histoire est là.
Non, mais c'est pas la même famille.
Si, c'est la même famille. C'est vrai. Mais quittons. Et donc, je me suis marié là, et juste avant mon mariage, juste avant la roupa, mon grand-père est venu me voir et me dit, écoute-moi bien, mon petit-fils, sache que ton Mehroutal, le père de ta fiancée, c'est un grand sadique. C'est un grand sadique, et sache qu'il se souvient à chaque instant qu'il y a Dieu. C'est ça sa grande force. Tu as fait. Et là, il le choque par le col et il lui dit, mais n'oublie pas une chose. Chez eux, dans leur famille, on se souvient qu'il y a Dieu. Chez nous, dans notre famille, nous, on ne se souvient pas qu'il y a Dieu. Nous, on n'oublie jamais qu'il y a Dieu. Il dit, comment ? Qui que quoi ? Et il dit, pour comprendre cela, il faut une histoire. Donc il raconte une histoire dans l'histoire. C'est une mise en abîme complète dans la Iboula de son grand-père. Il dit, il y avait un jour un chassid qui est parti voir son rebbe. Dans le voyage, qui a duré plusieurs jours, il y avait Shabbat au milieu. Alors il s'est arrêté dans la première ville qu'il a trouvée. Il était à la synagogue, il a prié, machin. Et le rabbin de la synagogue faisait partie du courant de ce qu'on appelait les mitnagdim, les anti-chassidiques. Il l'a vu quand même, alors il connaissait sa communauté, hein, le rabbin, il a vu un nouveau, qui a prié avec ferveur et tout, machin. À la fin de la prière, il a été le voir, il lui dit, dis-moi, est-ce qu'on peut vous inviter pour Shabbat ? Il a le plaisir. Et pendant tout le repas de Shabbat, ils ont parlé de Torah, d'Alakha, d'Ada, ils ont kiffé. Et à la fin, le rabbin lui demande, mais dis-moi, où vas-tu ? Il dit, je vais voir mon rabbi. Le rabbin lui a dit, ah, pauvre gars, Neber, n'y aurait-il pas dans la région un rabbin suffisamment bien pour que tu fasses de lui ton rabbin, plutôt que tu ailles à mille lieues pour aller trouver ton rabbin? Et il dit, écoutez, je ne peux pas parce que mon rabbi, il est très particulier. Mon rabbi, il n'oublie à chaque instant, il n'oublie jamais, à aucun instant, qu'il y a Dieu. Et quoi, les autres, ils oublient? Lui répond le rabbin. Il dit, ouais. Il dit, ah bon, genre moi, par exemple, j'oublie qu'il y a Dieu. Ouais. Il dit, ah bon, tu lis dans les pensées, toi? Il dit, ouais. Il dit, ah bon, eh ben on va te tester. Il dit, ok. Très bien. Donc dis-moi à quoi je pense maintenant. Alors le chassid, il le regarde, il dit, je pense là que tu es en train de penser au verset de Tehilim qui dit Shiviti Hashem l'enegdi tamim. Je placerai Dieu devant moi toujours. Le rabbin ne dit pas du tout, je suis en train de penser à un Tosfot que j'ai étudié ce matin dans le traité de Menachot. Il dit, ah bon, je me suis trompé? Il dit, ouais. Ah, vous n'êtes pas en train de penser à Shiviti Hashem l'enegdi tamim? Je placerai Dieu devant moi toujours? Ben, vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon rabbin? C'est-à-dire que si toi, il y a des moments où tu ne penses pas à Shiviti Hashem l'enegdi tamim, c'est que tu ne penses pas à Shiviti Hashem l'enegdi tamim. Cette dimension-là, d'être capable de penser à Kadosh Baruch Hu même quand il ne pense pas, c'est la dimension de Pourim. À Pourim, on te dit, c'est le moment où tu vas faire rentrer à Kadosh Baruch Hu partout. Parce qu'il n'y a aucun endroit où il est officiellement présent. Donc c'est l'endroit où il est présent partout. Pashut Meod. Mais ça, c'est quelque chose qui nous vient de vous et pas de nous. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'on a besoin de lui expliquer qu'elle est enceinte? Est-ce qu'on a besoin de lui expliquer qu'elle est en train de porter la vie? Ou elle sait qu'elle porte la vie? Même sans l'échographie. Et même sans voir son ventre grossir. Est-ce qu'elle sent qu'elle est porteuse de vie? C'est pas quelque chose que tu dois lui expliquer. Il semblerait que pour arriver à cette dimension-là, on a besoin de ces femmes d'Israël. Et c'est pour ça que... Est-ce qu'une femme a le droit de rendre quitte un homme en lisant la Megillah?
Oui.
Les femmes, elles sont obligées de lire la Megillah comme les hommes, et donc le clan, il est pas shoot. Tout ce que tu es obligé de faire, tu peux rendre quitte les autres. C'est pour ça qu'une femme, elle peut rendre quitte un homme de Birkat HaMazon. Après, on va pas rentrer dans les considérations, est-ce qu'elle a le droit de chanter devant les hommes?
Pour la
Vdala, est-ce qu'elle doit faire la Vdala?
Non.
Bah,
même
elle
avec
faire un
Mais
bah,
on favorise l'homme.
On favorise l'homme, tu verras avec ton mari.
C'est une halakha clé, ça.
Que ce que tu es obligé de faire, tu peux rendre quitte les autres.
C'est général, c'est pas...
C'est totalement général, maintenant. L'homme aussi, il est obligé de faire l'abdala, il est obligé de faire kidouche, il est obligé de faire, Maintenant, ce qu'on va te dire, c'est qu'effectivement, des fois, tu veux donner un kavod au papa de la famille, machin, mais... Alpi alakha pashut. Ça serait même préférable qu'une femme elle fasse kiddush à la maison, puisque le mari il a déjà fait kiddush à la tfila. Il a déjà été mikadesh au Shabbat. Mais comme il y a souvent des invités à table, et que tu ne sais pas comment les invités réagiraient par rapport à une femme qui fait kiddush, et est-ce que ça voudrait dire donc qu'elle fasse juste lire le kiddush mais elle ne va pas le chanter, c'est moins beau, machin, nanana. Alors, on s'est habitué à. Mais il faut savoir qu'une femme, quand elle est toute seule, il est évident qu'elle doit faire kiddush avant de manger Shabbat. C'est même pas un débat. On va pas se dire, j'ai pas de garçon autour de moi, je fais pas kiddush.
Juste un truc, une femme, elle peut acquitter pas par rapport à la Megillah, mais que si elle est sur un
parchemin. Ah oui, non, bah, les mêmes lois sont les mêmes lois pour les hommes et pour les femmes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit une Megillah, que j'ai ce que tu veux, bien sûr. Okay. Et qu'elle se trompe pas dans les mots, et, bien sûr. Ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais, que les femmes à Pourim, elles ont une place non seulement égale à celle des hommes, mais j'ai envie de te dire encore plus importante. Parce que toute la fête de Pourim, elle est arrivée grâce à une femme. C'est-à-dire que Esther, vous connaissez le jeûne d'Esther qu'on va faire là bientôt? C'est pas le jeûne d'Esther. On l'appelle le jeûne d'Esther. mais c'est pas le jeûne d'Esther. C'est-à-dire que Esther, elle n'a pas jeûné au moment où nous, on fait le jeûne d'Esther. Du tout. Esther, elle a jeûné quand ?
Avant Pessah.
Ah, avant Pessah. Ah, Pessah ! C'est-à-dire que le dernier jour du jeûne, ce mois-là, Ishlocha Yamim, c'était le dernier jour, Pessah. Mordechai, il ne voulait pas. Quand elle lui a dit de jeûner, il a dit, bah attendez, ça va pas du tout, si on fait ce que tu dis, on va jeûner pendant la Seder. Et Esther, elle répond, oui, mais s'il y a Aman, il n'y aura pas de la Seder. S'il réussit son truc et qu'il tue tous les Juifs, on ne fera pas le Seder. Donc, vaut mieux annuler un Seder pour en faire plein d'autres. Et nous, on fait un autre jeûne. On l'appelle le jeûne d'Esther. Mais le jeûne qu'on fait le 13 Adar, qui l'a fait ? Mordechai avec tous les hommes qui sont partis au combat. C'est le jeûne qu'on a appris de Moshe Rabbeinu que juste avant le combat contre Amalek, il a jeûné. Et donc Mordechai et tous les hommes d'Israël qui se sont battus contre Amalek, Aman et tous les autres, eh bien ils ont jeûné juste avant. Pourquoi est-ce que nous, donc, on l'appelle quand même le jeûne d'Esther ? Parce que le jeûne que Mordechai et les combattants ont fait un an plus tard a pris sa source dans le jeûne que Esther a demandé de faire à Pessah un an plus tôt. C'est-à-dire qu'on prend tout à fait conscience que sans elle et sans son ressenti à elle, il n'y a pas Pourim. Il n'y a pas Pourim, il n'y a pas Pessah. Pas Choukma. Pas Choukma. La dimension de Pourim, donc, elle est là. La prise de conscience qu'on est tous ensemble. La prise de conscience qu'à Pourim, le fait qu'on soit tous ensemble nous permet d'arriver à un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est total. C'est-à-dire qu'il est partout. Pour ça, j'ai besoin d'un petit coup de main. Nahon. C'est ce qui va me permettre de rassembler tout le monde. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, alors je peux aller me tourner vers ma femme, et vers nos femmes, et vers nos filles d'Israël et nos mères d'Israël, qui vont nous faire prendre conscience qu'est-ce que c'est Shiviti Hashem Lenegdi Tamid en vrai. Après, tu vas pouvoir l'étudier. Mais il y a l'étudier, il y a le ressentir. Et le ressenti de la fête de Pourim, elle a été d'abord chez nos mamans, chez nos filles et chez nos femmes, et seulement après, chez nous. Et donc vous avez une place prépondérante à Pourim. C'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, je ne peux pas terminer comme ça. Si tout ça c'est vrai, il faut qu'on trouve le lien avec la paracha de Pourim. Ben oui. Vous savez que les parachutes du Mishkan sont les parachutes de préparation à Pourim. Elles vont toujours tomber, Troumat et Tzavé, pendant le mois de Hadar, pendant les deux semaines d'avant Pourim. C'est-à-dire que la construction du Mishkan, c'est Pourim. C'est pas anodin. À chaque fois qu'Amalek est venu nous attaquer, c'est parce qu'on était en passe d'aller reconstruire le Beth HaMikdash. La première fois où Amalek est arrivé, c'est juste après Shirat Hayam. Et qu'est-ce qu'on a dit à la fin de Shirat Hayam ? Mikdash Hashem konenu yader. On était chaud patate pour construire le Beth HaMikdash, boum, Amalek il arrive. Koresh, il nous a dit de reconstruire le Beth HaMikdash, boum, Amalek il revient. À l'époque où Shaoul a été nommé roi d'Israël, donc il ne manque plus maintenant que de construire le Beth HaMikdash, Agag, roi d'Amalek, vient nous attaquer. Vous comprenez donc que qu'est-ce qui se joue dans le Pourim de notre génération ? C'est ça. C'est ça le truc qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que, vous savez bien, je terminerai par là, au Beth HaMikdash, en taille, en birotaille. Dans les parachutes qu'on a lus, et Shabbat dernier et ce Shabbat, en préparation à Pourim, il y a les ustensiles du Beth HaMikdash. Et parmi ces ustensiles, il y en a quatre. Quatre fondamentaux. Shulchan Lechem HaPanim, la table, la menorah, Aaron HaBrit, et dans la parasha de cette semaine, Mizbeach HaZahav, l'autel en or sur lequel on mettait la Ktoret. Bien, ces quatre éléments sont les éléments de Pourim. Sans m'étendre dessus, dans la Aaron, c'est facile, il y avait quoi ? Il y avait la Torah, c'est pas chaud. La table, elle représentait quoi ? L'abondance, la shefa, c'est mes corps à Parnassa Baola. La menorah, elle représentait quoi ? Ne me dites pas la Torah parce que c'est déjà pris pour.
Il faut éclairer.
Éclairer. Aaron. La menorah, elle est présentée dans la Torah comme on l'a lu ce Shabbat, elle est présentée comme étant faite de 1, 3 et 3. Enfin, il y a un étige au milieu, 3 et 3. Et je ne rentre pas dans la marque loquette Rabbi Lubavitch et reste du monde, sur est-ce que c'est en ligne droite ou est-ce que ça, bon, c'est vraiment pas important. C'est 3 et 3 et 1 au milieu. Évidemment qu'un juif qui entend ça, il ne peut pas ne pas faire allusion. Je veux dire, 6 plus 1, ça fait quand même référence à quelque chose dans le judaïsme. À quoi ?
Shabbat.
Shabbat. Et donc par excellence, le Shabbat de la création. Il y a eu 6 jours de création et il y a eu Shabbat. Baro. Seulement, pourquoi est-ce que la Torah, elle nous les a divisé les 6 jours en 3 et 3 ? Parce qu'effectivement, dans la création, les 6 jours de la création sont en fait 3 et 3. Il y a les 3 premiers et les 3 derniers. Il faut savoir que entre les 3 premiers et les 3 derniers ont été créés la même chose. Avec un truc en plus. Le mouvement. La seule différence entre les 3 premiers et les 3 secondes, c'est le mouvement. Le premier jour a été créé la lumière. Le quatrième jour, la lumière en mouvement. Le soleil, la lune, les étoiles. Le deuxième jour, le ciel et la mer. Le cinquième jour, le ciel en mouvement, les oiseaux. Et la mer en mouvement, les poissons. Le troisième jour, la terre. Et le sixième jour, la terre en mouvement, les animaux et l'eau. En d'autres termes, il y a 3 qui sont le statique, il y a le Shabbat et il y a le mouvement. En fait, pour être exact, il y a le mouvement qui nous amène à Shabbat et ensuite il y a le statique qui nous reste de Shabbat. C'est-à-dire que d'après la halakha, quand est-ce qu'on commence à souhaiter Shabbat Shalom ? Mercredi. Et quand est-ce qu'on peut, jusqu'à quand on peut faire la Havdalah ?
Mardi.
Et en termes de frigo, on commence à préparer Shabbat le mercredi et on mange les restes jusqu'à mardi. C'est pas chaud. Sauf quand tu es une morphale et à ce moment-là, il ne reste plus rien.
Vous avez dit aussi, Rav Lemel, que le monde avait. La dimension du monde est en. Enfin, le monde est construit en 7 dimensions. 6 qu'on connaît, et le centre, c'est la 7e dimension.
Le centre, c'est Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a 3 et 3. Tu as un 3 qui vont vers Shabbat et 3 qui puisent leur force de Shabbat. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la menorah, qui est 3, 3 et au milieu Shabbat, c'est ce qu'elle vient de nous apprendre, c'est la dimension du mouvement.
Il y a
un sens
vert.
Hein ?
Non, le misbère.
Et le misbère. Le misbère, c'est quoi ? On y mettait quoi ? La ktoret. Non, je ne parle pas du misbère dehors. On parle des éléments qui sont dans le mishkan, c'est-à-dire dans le bâtiment. Le misbère, hasaf, tu mettais la ktoret, l'encens. Seulement, elle était formée de combien d'épices ? Et quand on nous donne la halakha, on nous dit qu'il faut faire très attention parce que « Imchissa refad mikol samamena, chayav, mita ». Mais pourquoi est-ce que les gens, ils auraient envie d'en enlever un ? Parce qu'il y en a un qui pue. Dans les 11 épices, il y en a une qui sent pas bon. La chelbena. La chelbena sent pas bon. C'est que neged arishayim. Tu aurais pu penser qu'il faut les sortir. Nichas v'shalom. Si tu penses qu'il faut sortir une partie du peuple juif, shum davar. Choum d'Ava. Zekulam Beyak. Tov. Alors, si on a bien compris, alors c'est bon. C'est l'essence de Pourim. Parce que l'essence de Pourim, la fin de la Megillah, c'est le verset que vous avez cité tout à l'heure. La Yehudim Aïta, Ora, Vesimcha, Vesasol, Vika. Ron. Mazé la Yehudim. Les Kol Yehudim. Aïta, Ora. Ils disent Chazal, Ora, c'est Torah, Aaron. Vesimcha. Simcha, c'est quoi ? C'est lorsqu'on est arrivé au top de la Shefa. Simcha, c'est lorsque la coupe est pleine. C'est ce qu'on appelle Shulchan Yachem Apanim. Sason, c'est lorsqu'on est en train d'arriver à la dimension d'évolution du mouvement. C'est la menorah. Ah, mais il en manque un. On a dit, la Yehudim, c'est Kulam, c'est le Misbeh HaKtoret. Ora, Zotora, c'est Aaron Abrit. Vesimcha, c'est Ashefa, c'est Shulchan Nechem Apanim. Vesasson, c'est l'évolution, c'est la menorah. Mais il y a un dernier mot. Vika. Ah ouais. Je vais refaire le pot. Il me manque un truc. Ah mais non, il ne manque pas un truc. C'est quoi le dernier élément de la paracha ? La Kior, on va le voir justement dans la paracha qui ne sert pas encore ici. Non, il y a une grosse partie de la paracha de Tetzaveh qu'on va lire sur Shabbat, c'est quoi? Les habits du Kohen. Ah, 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 bah c'est bon alors. C'est quoi le dernier mot de la chanson? La Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vika. Vous vous rappelez pas? Qu'est-ce qu'il doit prier, Aman, quand il se balade avec Mordechai, qu'il a habillé de Bigde Malchut? Il lui dit Kacha Yase la Ish, Asher Amelech, Hafet, Beikar Shelo. Beikar. Vous avez Ikar, vous avez Gush. La Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha, Vesasson, Vikar, c'est les deux parachutes de Koumat et Tzavé. Parce que tu comprends que l'idéal de Purim, c'est pour pouvoir te faire arriver à la finalité qui s'appelle le Beit HaMikdash.
J'ai pas compris le dernier point.
Ikar, Ikar, Ikaro chez la Adam, c'est son habit.
Ikar, c'est l'essentiel.
L'essentiel de l'homme, c'est comment il se présente.
C'est l'habit de qui
de... D'abord, à l'époque de la Megillah, c'est qu'on a habillé Mordechai avec des habits de roi.
D'accord.
Ok. Par rapport à la paracha, là où on trouve la kedusha dans les habits, c'est dans les habits des Kohanim, qui nous apprennent à nous comment est-ce que nous on doit se vêtir.
Juste, c'est Yakar, c'est pas Ikar.
C'est?
C'est Yakar, c'est pas Ikar.
C'est exactement
yakar,
la même
chose. Yakar, c'est précieux.
Yakar, c'est précieux, et c'est Ikar chez la Adam. Au niveau grammatical, les deux mots, ils viennent de la même racine. Donc tu as raison que Yakar, c'est Ikar, et c'est deux mots différents, mais ils viennent de la même racine. Parce que pourquoi est-ce que le yakar, il est yakar?
Je pense que c'est tiré par
parce que c'est yakar.
Hein? J'ai l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux, la dernière explication.
Quoi, des habits?
Ouais, j'arrive pas.
Tu comprends
les habits de Mordechai et le lien avec les habits du Kohen.
Je dis simplement que à Ikar chez la Adam, c'est la façon dont il présente. Okay, c'est ses habits. L'habit fait le moine dans le judaïsme. Ok? Donc ça, c'est au niveau général. Maintenant, où est-ce que la paracha nous apprend que présenter d'une certaine façon, c'est important? Quand on présente tous les habits des Kohanim. Ok? D'autant plus que quand tu sais que le top de l'habit, c'est l'habit du Kohen Gadol, et à quoi il sert l'habit du Kohen Gadol, d'après la paracha, il sert à avoir la classe. Le chavod ou le tifaret. Ok? Maintenant, quand tu sais que Achashverosh, il a mis ces habits-là pour son michté, tu comprends que tout est lié. Et que c'est ces habits-là qu'on va habiller Mordechai quand on va vouloir lui faire le kavod. Donc, tout mis ensemble, tu comprends que Veikar, que les Juifs, ils étaient très contents, c'est la dimension que moi aussi, dans ma façon dont je me présente au quotidien, eh bien, c'est ça qui me permet de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes ces deux parachutes me permettent d'arriver à Purim en mode au top. Je me suis préparé à Purim, et comme je me suis préparé à Purim, grâce à mon petit coup de trop, je suis arrivé à Adeloyada, et enfin je peux arriver après Purim, à la paracha qui suit Purim, la paracha de Kitissa, où Moshe est arrivé également à la dimension de Adeloyada. Lorsque Moshe descend du Harsinaï pour la deuxième fois, eh bien on nous dit, où Moshe lo yada kikaran orpana. Et Moshe est arrivé à Adeloyada lorsque son visage éclaire. Cette dimension d'unité, c'est la dimension de la fête de Pâques. Ça va?
Merci beaucoup.
Ça va, ça va, sa mère?
Merci beaucoup.